Henri de chien, puis que je vois les gens qui s'occupent du gazon ou qui sont sur une toiture, tout ça, j'ai comme le réflexe d'avoir envie de leur apporter une bouteille d'eau ou de... Non, mais tu sais, il y a comme une compassion,
Ouais.
mais en même temps, je pense que ces gens-là ont choisi ce métier-là avec les moins 34 l'hiver pour certains qui travaillent dehors, puis les plus 34, je pense qu'ils sont endurcis plus que nous aussi.
Alors peut-être, et moi pour l'avoir fait, je peux te confirmer que des fois tu te demandes, coudonc, tu sais, pourquoi j'ai accepté ça. Puis ça forge, on va se le dire, ça forge le caractère, là. Quand tu travailles dans des situations où tu te dis, mais tabarouette, là. Tu sais, la pression, elle peut être énorme. Tu sais, je sais pas, moi, t'es avocat, puis là, t'as une grosse cause, puis tu te rends compte que ça se passe pas comme tu veux que ça se passe. Puis là, les témoins de l'autre côté sont encore meilleurs que tes témoins. C'est la pression, ça fait travailler le caractère, là.
Oui, absolument. Puis, tu as raison de dire que de chaque travail, il y a des plus, puis il y a des défis. Ils sont juste pas placés en même place. T'sais, je pense à l'infirmière qui fait deux shifts de fil. Je pense à. Tu sais, je veux dire, on a tous, à toi qui se lève le matin,
Trois
à
heures et
moi qui.
quart.
Ben oui, tu sais, à moi qui viens de lutter contre une gastro, puis qui a encore mal au cœur, puis qui n'est pas sûr devant 500 personnes lors d'une conférence. Seul au monde sur scène en me disant, ben là, si ça foire, je suis seul au monde. Non, mais on a tous nos défis. Mais je veux dire, j'ai de la compassion pour certains corps de métier qui ont, selon les éléments de la vie, tu sais, les feux de forêt, quand les pompiers vont pour les gros feux de forêt, les pompiers, j'ai une admiration sans borne. Tu sais, au fond, dans la vie, là, quand tu es un peu humain, avoir de l'admiration pour les autres, je trouve que c'est être à bonne place.
Exact, exact.
Mais.
Aujourd'hui, on se pose la question, Paul
Oui.
Lévesque, quel genre de caractère. Tu vas nous donner les façons de reconnaître le caractère qu'on peut avoir. Moi, je connais mon caractère. Je ne saurais pas te dire, je ne saurais pas mettre un nom sur mon caractère, mais je te dirais que mon caractère s'est beaucoup amélioré en vieillissant. On fait plus de résilience, ce qui fait en sorte que, tu sais. Quand tu es en train de travailler fort, puis tu as l'eau qui te coule dans le milieu du front, puis tu n'es plus capable de voir en face de toi. À 20 ans, j'aurais paniqué, j'aurais sacré ma vie, j'aurais été en sacrement, j'aurais peut-être sacré le camp du chantier. Dans quarantaine, tu te dis, ouais, OK, c'est la vie, à un moment donné, c'est un bout de dur, mais à un moment donné, ça va passer.
T'es en plein dedans. Encore une fois, une intelligence remarquable au niveau affectif. En fait, le caractère, c'est la manière de réagir et de se comporter d'après notre personnalité. Tu sais, on a toute une personnalité.
Ouais.
Et le caractère, c'est un dérivé de notre personnalité. C'est notre façon, justement, de s'ouvrir sur le monde et on le souhaite évolutive. Le caractère, il est formé d'abord par un mélange de ton tempérament, c'est-à-dire que ce que tu as reçu à la naissance, un mélange de ton éducation, puis un mélange de tes expériences de vie. Donc, il est vrai de dire que le caractère doit, je l'espère, évoluer avec le temps.
Est-ce que ça peut être génétique, Paul? Supposons que j'ai jamais connu mon grand-père, j'ai jamais connu mon père, puis bon Dieu, j'ai l'impression d'être né avec un caractère de cochon. Ça se peut-tu que le grand-père puis le père étaient pareils, même si je les ai jamais rencontrés?
Ben, c'est un mélange au fond d'une partie qui est génétique et héréditaire. Tu
Ouais.
remarqueras, par exemple, Yannick, qu'il y a des familles de colériques.
Oui, mais ça peut être acquis, ça, tu sais, au fil du temps. Si tu as vu tout le temps ton père fâché, tu sais,
Oui.
l'humain s'améliore avec le mimétisme, là, grâce, tu sais, l'humain s'est développé grâce au mimétisme. Peut-être que l'enfant qui regarde son père qui est très colérique, qui adule son père, va devenir très colérique. Mais dans l'ADN, y a-tu de l'ADN de colère?
Quand on étudie le comportement humain, il est indéniable de dire que je pourrais dire encore une fois que c'est divisé en trois tiers et le premier tiers, il y a de l'hérédité et de la génétique.
Ouais,
Je
OK.
vais te donner juste un exemple. Prends l'anxiété.
Oui.
Il y a des gens qui vont venir au monde avec une prédisposition anxieuse et il y a quelque chose de génétique. D'héréditaire, on dit que c'est 80% héréditaire, Yannick. Mais l'éducation, et les événements vécus vont favoriser, bien sûr, le fait que si tu es une famille de 10, puis que tout le monde n'aura pas eu la même hérédité, la même
Ouais.
génétique, la même couleur de yeux, mais on va être influencé aussi par, ben, si tu es une mère anxieuse, puis notre prédisposition anxieuse, il se peut que sa surprotection agisse sur des événements de la vie. Donc, a une propension à développer encore plus. C'est pour ça que si on prenait deux jumeaux identiques, on les mettait dans deux environnements différents, par exemple, il y aurait une propension plus forte à le développer dans un environnement où il y a déjà de l'anxiété versus un environnement où il n'y en a pas. Puis plein de choses t'influencent, Yannick. Le rang dans ta famille. Est-ce que tu es enfant unique ou tu es le troisième ou tu es en plein milieu d'une fratrie qui est la même, donc un garçon entouré de deux autres garçons. Le fait que tu aies une différenciation plus ou moins entre les groupes d'âge de ta fratrie. Le fait que tu as été couvé ou pas. La surprotection a un impact. Le fait que ta personnalité initiale, donc il y a des gens qui vont être têtus, par exemple. Donc, même si maman anxieuse propose la surprotection, il va se rebeller contre. Donc, ta personnalité va agir. Mais on peut penser que nous sommes influencés par un paquet de choses qui va favoriser ou défavoriser le développement de ce qui est génétiquement en toi. Fait que oui, il peut avoir, puis familialement parlant, on peut voir des corrélations qui sont en lien avec ce que tu as eu comme bagage génétique, mais selon comment ça s'est développé.
Mais la vie sur Terre est phénoménale. J'écoutais un documentaire il y a de ça quelques années où on se posait la question pourquoi un bébé dans la nature, un bébé animal, là, pas un bébé humain, mais pourquoi un bébé qui vient de naître dans la nature sait qu'il peut nager? Pourquoi il sait instinctivement qu'il y a certains animaux qu'il va croiser, que c'est des animaux amis? Versus, c'est des animaux qu'il ne faut pas que tu croises parce que c'est des prédateurs. Ben, il semblerait qu'il y ait un bagage dans l'ADN qui est transmis d'un animal à l'autre qui t'apprend à la naissance que sans le savoir, tu sais nager, mon homme. Donc, ce que les spécialistes mentionnaient à l'époque, puis aujourd'hui, quand on pense aux Premières Nations, entre autres, on sait maintenant qu'il y a un bagage dans la génétique qui se promène. On parlait d'anxiété tantôt, mais chez les Premières Nations, des jeunes de 10 ans qui souffrent d'un mal de vivre, ben des fois, on peut l'expliquer par ce que son grand-père a vécu, parce que son arrière-grand-père a vécu. Des fois, ça peut être suivi dans l'ADN. L'être humain, c'est phénoménal.
Tu as des comportements acquis et des comportements innés.
Ben oui.
Ouais, fait qu'il y a des comportements innés qui sont en mutation. À force de faire la même chose au
Ben
même
oui,
moment, de la même
puis
façon, de génération en génération, tu crées des comportements qui vont devenir des comportements innés.
il y en a qui vont dire que c'est des hasards, mais ça se peut que ce soit des hasards, mais je crois pas qu'il y a juste des hasards. Souvent, un enfant qui connaîtra pas sa grand-mère va avoir été une artiste peintre et l'enfant va avoir des talents de dessin hallucinants, alors que la propre fille de cette mère, de cette grand-mère-là, elle s'est pas dessinée pantoute. Mais l'enfant naît avec ce qu'on appelle un don, mais ce serait dans le bagage génétique.
Tu as tellement raison. Prenons juste par exemple, ma famille, c'est une famille de musiciens. Et pour moi, la musique, c'est quelque chose d'inné. Donc, je fais quatre instruments, j'ai pas tant de mérite que ça, dans le sens, je pratique, mais il y a une facilité naturelle. Tu comprends?
Mais Paul, le triangle, je te l'ai dit, c'est pas un instrument de musique,
Le piccolo non plus.
là.
Non, mais là, c'est de la jalousie pure, ton comportement, mon père, ton commentaire. Mais il y a des comportements qui sont, oui, tu as raison. Mon chum, eux autres, ils sont 11 dans leur famille, puis ils sont tous des artistes. Toute la gang.
Ouais.
Pas tous à sa même place. Donc, puis ils n'ont pas été, tu sais, à 11, ils n'ont pas été stimulés tant que ça, là. Non, mais je veux dire, ils n'ont pas le temps de stimuler chaque enfant. Il y avait quelque chose, tu as raison, de familial, d'inné. Oui, puis l'être humain, il est fascinant, puis j'aurais pas assez de toute une vie pour apprendre et comprendre ce que c'est que l'être humain. Mais il y a des échappées. Tu remarqueras qu'il y a des familles où ils ne toucheront pas jamais la musique, qui ont aucun rythme. Hein, tu sais, il y en a que c'est zéro, puis qui naît un petit Mozart à travers tout ça, puis tu te dis, moi j'ai donné longtemps des cours de musique. Puis, tu sais, des fois, tu vois quelqu'un qui semble sortir de nulle part, tu te dis, donc c'est un talent qui avait en lui. Mais oui, on peut voir. Puis, tu sais, ce qui est fascinant dans le caractère, c'est l'évolution qu'on peut en faire. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je souhaitais, c'est Mieux se connaître permet de mieux utiliser qui je suis. Au fond, dans la vie, il faut devenir un soi bonifié. C'est un moi plus, pas devenir quelqu'un d'autre. Puis quand tu étudies qu'est-ce que mieux se connaître peut apporter, mieux se connaître, ben, ça évite l'épuisement parce que tu es capable d'être proactif. Tu sais que tu fonctionnes de telle façon, donc tu évites l'épuisement. Ça permet de respecter tes limites. Si tu ne connais pas, comment tu fais pour les respecter? Ça
Exact.
permet de gérer tes émotions. Si tu sais que tu es colérique, tu vas être capable de prendre des outils et des moyens pour ne pas péter une coche aux 10 minutes. Ça permet d'éviter de blesser l'autre aussi, parce que ça va te permettre de moduler ton caractère. Ça permet de connaître tes besoins qui sont fondamentaux. Ça permet d'utiliser tes forces aussi. Et bien sûr, de prendre ce qui est plus faible et d'en faire un défi. Et puis, on se connaît, pense-t-on. Mais se connaît-on vraiment? Parce que ce que tu étais il y a 10 ans a évolué. Fait que moi, j'ai sorti les 7 traits de caractère les plus importants à laquelle on peut partir pour évoluer, pour évaluer dans quel contexte je suis, puis comment je peux mieux utiliser ce que j'ai de fort, puis bien sûr, mettre à défi ce qui me met dans le trou.
Parfait, j'aime ça. On va le faire dans les prochaines secondes. Juste avant, est-ce que l'âge influence beaucoup le caractère? C'est-à-dire des caractères extrêmement forts ou des caractères de bougonneux ou des caractères de mononcle fâché comme on connaissait dans le temps. En vieillissant, est-ce que ça s'estompe, ces gros traits caractéristiques-là qui font en sorte qu'on est très caractériel?
Écoute, c'est tellement fascinant. Je vais te donner un exemple. J'ai une personne de 80 ans que je suis. OK? Il est dans un RPA. Je brûle pas de punch, là. Je dis rien de plus que ça. Il a vécu de l'intimidation toute sa vie. Sais-tu pourquoi il me consulte?
Parce qu'il veut se connaître, il veut partir en paix.
Non, il vit de l'intimidation au RPA.
Hein?
En fait, ça n'a pas été réglé toute sa vie. C'est pour ça que je te dis, c'est une personne âgée qui vit de l'intimidation. Il en vivait au primaire. Il n'y avait pas de secondaire. Là. En tout cas, tu sais, c'était. Je sais pas comment il appelait ça. En tout cas,
À l'école.
toute sa vie, à l'école, au travail, il a vécu de l'intimidation toute sa vie. Et là, il se retrouve au RPA, puis il vit de l'intimidation, puis il me dit, Paul, je ne veux pas mourir sans avoir travaillé là-dessus. Je suis plus capable.
Mais c'est
Donc,
formidable vouloir travailler là-dessus. Je trouve ça formidable, hein?
oui, mais tu sais, quand tu dis. Si tu ne travailles pas des éléments, ils vont se retrouver.
Ouais.
Un bougonneux, quelqu'un qui a été bougonneux et caverneux toute sa vie, puis qui n'a pas travaillé là-dessus, qu'est-ce qu'il va faire quand il va être personne âgée? Ben, il va l'être encore plus. S'il n'a pas travaillé, c'est un caverneux puis un bougonneux, donc il va se retrouver dans un climat de personne âgée qui est dans la même optique.
Ouais.
Un maudit chialeux puis un maudit bougonneux. Donc, ça t'accompagne toute ta vie si tu n'as pas un regard sur. Tu sais, tu parlais de résilience tantôt. Si on est résilient, c'est qu'on a eu de l'humilité et de la vérité. Dans la vie, ce qui fait qu'on évolue, c'est qu'on est dans la vérité. Si tu es capable de te regarder le nombril, si tu es capable d'avoir de l'humilité, puis de pas dire que c'est la faute du gouvernement, des autres, de la société, même si ça nous influence, de dire, moi, Paul, saine de corps et d'esprit, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer? Il faut que j'aie l'humilité de dire qu'est-ce que je dois faire évoluer. Si mon bougonneux, durant toute sa vie, il a dit que c'était la faute de sa femme, que c'était la faute de la société, que c'était la faute de son travail, puis il
Ouais.
était bien correct comme ça, il n'évoluera pas.
OK. Ben, tu vois, moi, ça m'est arrivé des derniers jours. J'étais en pleine phase de déménagement, puis j'ai la chance d'avoir mon nouveau loyer quelques jours avant. Fait que je call l'entreprise Internet. Quatre techniciens qui n'ont pas été capables. En fait, c'est le quatrième qui a réussi à régler le problème. Quatre techniciens, puis à chaque jour, on me demandait de réserver une plage de 4 heures. Comme quoi, ah, le technicien pourrait passer dans ces heures-là. Sont venus quatre en ligne. Avoir eu 20 ans, Paul, j'aurais sauté un plomb au deuxième en disant, là, moi, c'est pas vrai que je vais perdre encore 4 heures de temps à attendre un technicien chez nous qui, visiblement, n'est pas capable de régler le problème. Mais tu sais quoi, en fin de semaine, là, je parlais avec une de mes amies, j'ai dit, c'est de la résilience. Je vais contrôler ce que je peux contrôler. Puis le reste m'a laissé ça de côté. Mais ça, c'est en vieillissant, Paul. T'sais, dans mon cas, moi, là,
Absolument.
c'est Je sais, j'ai pas vraiment travaillé sur moi-même. Moi, c'est l'âge qui fait en sorte que je me dis, contrôle ce que tu peux contrôler, ce que tu peux pas contrôler, laisse ça aller.
Mais oui, tu as travaillé sur toi.
Ah oui?
C'est pas. Ben, voyons donc. Les événements qui te sont arrivés dans la vie ont fait de toi. Je vais reprendre quelqu'un qu'on aime beaucoup toutes les deux, Nelson Mandela, qui a dit, tu réussis ou tu apprends. Donc, tu as appris. En vieillissant, on apprend. Et quand tu dis que tu n'as pas travaillé sur toi, c'est faux. Tu as appris, parfois à la dure, Yannick, parfois sans même t'en rendre compte, des éléments qui ont été percutants dans ta vie. Donc, oui, on apprend. Puis on pense qu'il faut une thérapie pour évoluer. Pas du tout. Et c'est là que je reviens avec la vérité. Si tu as été capable d'avoir l'humilité de regarder ce qui se passait et de réaliser que dans certaines situations, tu l'échappais, que ça t'amenait du trouble, que tu blessais peut-être toi ou quelqu'un d'autre, tu as réajusté les choses. Donc, tu as appris à l'école de la vie. C'est pour ça qu'en vieillissant, on parle de sagesse. Sagesse, ben, écoute, c'est pour ça que je te regarde puis je cherche un autre point de vocabulaire. Mais non, mais je veux dire, moi, je dis tout le temps, puis je le dis en conférence, en vieillissant,
Ouais.
ça s'affaisse sur ton corps, mais en contrepartie, tu as la sagesse qui s'élève, peut-être la sagesse d'accepter que ça s'affaisse sur ton corps. Mais la sagesse, c'est l'accumulation d'apprentissage. Mais pour ça, il faut accepter d'apprendre.
Juste te dire, Paul, que moi, il n'y a rien qui descend là encore.
Quand on est obligé de justifier, c'est probablement parce que ça a vraiment commencé.
D'accord. Allons-y avec ton travail, Paul, maintenant.
Maintenant, les grands styles de personnalité, c'est sûr que, comme tu dis, en vieillissant, on va devenir un peu plus dans l'équilibre, mais on reste avec des dominantes. Donc, un premier trait de personnalité, c'est les gens qui sont calmes et posés. Okay? Donc, c'est des gens qui sont des anti-paniques. Tu comprends? Dans notre société, c'est des gens qui vont venir apaiser. Ce n'est pas des gens réactionnels. Les calmes et posés vont avoir une tendance à l'écoute. Ce n'est pas des grands verbomoteurs. Okay? Donc, une tendance, puis peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être que vous reconnaissez des gens que vous connaissez autour. Donc, c'est des gens qui sont déposés. Est-ce que tu te reconnais là-dedans?
Quand la situation le demande, je deviens cet individu-là. Exemple, il arrive une catastrophe. Ça m'est arrivé peut-être deux ou trois fois dans ma vie, mais je vais te donner un exemple. Je travaillais dans la restauration quand j'étais jeune. Il y a un homme qui s'est fait malheureusement frapper par un autobus. Il est passé sous l'autobus et sous les roues. Puis tout le monde était sur l'adrénaline, puis tout le monde était en panique. Moi, curieusement, j'avais un calme qui était assez désarmant, surtout quand j'y pense par la suite. J'étais allé prêter main forte. J'étais agenouillé devant l'homme, puis j'essayais de lui parler, puis on essayait de faire les premiers soins. Moi, j'étais extrêmement calme. Il y a des gens autour de moi qui n'arrêtaient pas de crier. Puis là, je te décris la situation comme si c'était un film, là, puis j'étais l'acteur principal, mais je l'ai vraiment vécu comme ça. J'étais à genoux, puis calmement, j'ai demandé à un chauffeur de taxi qui est arrêté pour prêter main forte. Je dis, est-ce que vous avez de la corde dans votre voiture? Est-ce que vous avez quelque chose qui me servirait de lui faire un garrot au niveau de la jambe? Puis effectivement, il y avait une genre de ceinture qui servait à rien. Fait qu'on lui a fait un garrot au niveau de la jambe. Après ça, j'ai quitté parce que les premiers soins sont arrivés, les ambulanciers, les policiers. Je voulais pas nuire à leur travail. Puis je suis rentré travailler à l'intérieur du restaurant avec encore là un calme assez légendaire. J'ai fini mon corps de travail. C'est rendu à la maison quand j'ai pris ma douche que je me suis rendu compte de tout ce qui venait se passer. Ça, j'ai trouvé ça weird, mais ça m'est arrivé 3-4 fois dans ma vie, je te dirais, où pendant que tout le monde est en panique, moi, j'étais hyper calme. Quand on parle aux soldats, on dit qu'il arrive plusieurs choses en théâtre de guerre. Il y en a qui fuient, il y en a qui foncent et il y en a qui figent. Moi, dans mon cas, j'ai juste foncé. J'ai pas fui, j'ai pas figé.
C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, on peut. Puis j'aime beaucoup tes 3F, la fuite. On peut voir des catégories de personnes qui, tu sais, on se découvre à travers les événements de la vie. C'est ce que tu me dis. Donc, on sait qu'il y a des gens qui sont là, c'est moi qui fais une appellation comme ça, il y a des urgentologues et il y a des soins palliatifs. Okay? Les urgentologues, c'est des gens qui, plus le niveau d'urgence est élevé, plus ils sont compétents. Ce que tu me décris. Okay? Donc, c'est des gens que, alors qu'il arrive des catastrophes, des choses, tu en décris une, ils ont des ressources d'urgentologue, c'est-à-dire qu'ils sont capables de canaliser leur énergie et leur plein pouvoir pour agir. Souvent, après la situation, ils vont tomber. Après la situation, ils tombent, tu comprends? Toute l'adrénaline qui a été utilisée, elle tombe, puis là, ils réalisent ce qui s'est passé. Donc, moi, je me retrouve beaucoup dans cette catégorie-là. Il y a les soins palliatifs. C'est des gens qui vont soit fuir ou figer devant une urgence ou une situation grave, tu sais, quelque chose qui arrive et qui ont à faire face. Par contre, ces gens-là, ils sont très bons pour l'après. Ce que ça veut dire, c'est que après, quand le danger est passé, c'est des gens qui vont être capables d'être bien fonctionnels. Puis, je pourrais te décrire quelque chose qui... Mon mari est plus... soins palliatifs, moi plus urgentologue. Un jour, notre fils est tombé sur un coffre à outils, il s'est ouvert le visage. Okay? Donc, mon chum paralyse, moi je deviens d'une efficacité remarquable, puis en plus dans mon travail, je l'ai développé encore plus. Donc, c'est moi qui deviens, qui drive. OK, on garde son gilet, il est plein de sang, on va passer tout de suite. Va chercher ça, va chercher ça. Alors qu'après, quand on est revenu à la maison, je suis tombée. Je suis tombée raide. Alors, lui est devenu très bon. C'est lui qui a appliqué les soins de suivi alors que les choses avaient été nommées et qu'il était capable de. Fait que, tu vois, dans notre société, on a besoin des deux, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'il se peut que dans ta vie de tous les jours, tu ne sois pas quelqu'un de calme et de posé, mais tu deviens, devant les situations d'urgence, quelqu'un qui devient de plus en plus efficace plus la situation d'urgence augmente. Donc, tu vois, ça nous apprend des choses. C'est pour ça que c'est important de... Donc, ça veut dire que s'il arrivait une urgence, ben c'est toi que j'irais chercher. Parce que je sais que tu es efficace. Alors que pour l'après, j'irais chercher probablement d'autres personnes pour être capable de soutenir la suite des événements. Fait que de comprendre qui on est, puis de mieux l'utiliser, ben, ça nous permet d'être à bonne place au bon moment. Fait que, ben, bravo pour le geste héroïque que tu as fait. Et souvent, tu remarqueras que les gens qui vont poser des gestes héroïques, c'est des gens qui sont des urgentologues. C'est qu'ils savent comment faire. C'est comme ça devient clair, les gestes à poser.
C'est juste qu'on le réalise par la suite. Moi, je mettais ça sur le dos, que j'étais peut-être un peu plus lent que les autres, là. Mais même affaire pour Luca Rocco Magnotta. Tu t'en souviens-tu de l'épisode Luca Rocco Magnotta à Montréal où bon, il y avait c'est June Lynn qui a malheureusement été tuée. On avait
Il est
retrouvé
passé.
June Lynn dans des valises différentes, tiens, on va dire ça comme ça pour être un peu moins graphique. Et lui s'était sauvé, mais il avait tout filmé ces choses. Et moi, j'étais avec Monsieur Gass à l'époque, Monsieur Gass que tu as déjà croisé là, dans mon ancienne vie radio. Et Monsieur Gass dit, Yann, on a reçu une vidéo, j'aimerais que tu la consultes. Là, je regarde ça, Paul, puis c'était pendant la pause. Et là, je regarde la vidéo, puis je me dis, écoute, c'est ça, c'est des effets spéciaux d'Hollywood, là. C'est vraiment développé, là. Puis j'ai regardé la vidéo au grand complet, puis après ça, ben, M. Gass, au retour de pause, me demande de lui décrire la vidéo sans être trop graphique, mais c'était quand même assez dur de ne pas être trop graphique avec ce que j'avais vu sur les images vidéo. C'est le soir. Quand j'ai pris ma douche, encore la même chose. Le soir, quand j'ai pris ma douche, j'avais des flashbacks des images que j'avais vues. Fait que c'est weird ce que l'adrénaline peut nous faire faire. Il y en a qui vont paniquer, il y en a d'autres qui vont crier. Moi, dans mon cas, c'est le calme plat, puis par la suite, je réagis comme n'importe quel humain pourrait réagir.
Alors on considère que tu es un urgentologue. Donc c'est vraiment... Puis on remarque, c'est sûr qu'il y a des nuances. Mais on remarque quand même deux catégories de gens, des gens qui sont efficaces devant l'urgence et des gens qui vont perdre leurs moyens devant l'urgence. C'est pas que t'es pas bon, c'est que, puis c'est sûr que tu peux développer un peu plus, hein, mais il y a des tendances naturelles, donc tu viens de nous décrire ce que tu es. Tu vois? Donc,
Voilà.
s'il m'arrive quelque chose, je vais avoir une tendance à t'appeler.
Puis si je peux avoir le même salaire qu'un urgentologue, je serais très heureux.
Ben, probablement si tu ferais de la médecine, tu aurais été bien plus attiré par être un urgentologue qu'être un médecin esthétique, d'après moi.
Ah, peut-être, peut-être.
Oh
Mais
non, là, ouais, c'est
j'ai
ça,
pas les
OK.
skills nécessaires pour être médecin. Ensuite, une autre catégorie de
Ensuite,
caractère.
le caractère, on appelle ça les impulsifs. Les impulsifs réfléchissent après, OK? Donc, c'est un peu comme des feux de Bengale. On va retrouver dans cette catégorie-là souvent les déficits d'attention avec impulsivité, tu comprends? Donc, les gens impulsifs, c'est le feu pointe tout de suite, tu comprends? Mais contrairement à l'urgentologue qui va prendre des bonnes décisions quand tu es réactionnel, que tu es impulsif, c'est pas sûr que tu vas prendre toujours les bonnes décisions parce que tu réagis. C'est-à-dire, ton comportement, ton émotion te guide, puis tu réfléchis après. Fait que c'est des gens qui vont faire des montées de lait rapidement, c'est des gens qui vont. Tu fais, voyons, ce qui s'en va, c'est ski. Hein? Tu as déjà rencontré des gens qui font, voyons, c'est. Pogne donc, ben, il mouche vite. C'est des gens qui ne sont pas rancuniers. Hein? Souvent, ils vont péter la coche, puis après ça, ils vont faire.
C'est-tu
Ils vont
aussi dur pour eux d'être ce qu'ils sont que les gens qui les entourent? C'est une femme qui endure et réactionnaire tout le temps, là, puis qui arrête pas de chialer,
Ah, ben, le réactionnel, il est peut-être agréable.
là. Ouais, OK.
Sauf, je veux dire, c'est pas nécessairement un boubou, là, c'est pas nécessairement un grognon, c'est quelqu'un qui s'enflamme vite. Donc, s'il est dérangé par quelque chose, puis dans cette catégorie-là, on pourrait voir à l'extrême les gens qui vont développer de la violence, par exemple.
Oh, OK.
Pas tout le monde, là, mais je veux dire, ça pourrait aller jusque-là. L'impulsivité peut faire bien des choses. Mais il y a des degrés là-dedans. Mais l'impulsif, c'est la pulsion vient, puis tu réfléchis après.
OK. Mais est-ce que... Là, je te pose une drôle de question, là, mais écoute, c'est toi la spécialiste du comportement humain. Est-ce qu'on aime plus ces gens-là qui réagissent tout de suite sur le coup puis qui disent tout ce qui se passe par la tête? Est-ce qu'on les aime plus ces gens-là que les gens qui sont un peu plus résilients, qui parlent pas beaucoup, qui sont mystérieux quand il se passe quelque chose?
Dépend qui tu es. On appelle ça l'alchimie entre les humains. Donc, il y a des humains qui sont plus compatibles ensemble que d'autres. Donc, selon qui tu es, tu vas apprécier des gens avec une personnalité ou un caractère qui est plus compatible avec toi. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont apprécier beaucoup plus des personnes plus calmes, plus déposées, alors que d'autres personnes vont trouver que ces gens-là leur tapent ses nerfs, ils sont trop lents, ils parlent pas. Fait qu'il y a une alchimie entre les gens. C'est-à-dire que il y a des. Selon qui tu es, un peu comme tu sais, quand tu vas à la SAQ, là, il y a des pastilles de goût, là.
Oui.
Donc, si tu aimes telle sorte de vin qui a la pastille bleue, ben, tous ceux qui ont la pastille bleue, tu risques de les aimer, tu comprends? Fait qu'il y a des tempéraments, un peu comme les pastilles de goût, qui vont t'attirer plus que d'autres, de ce que tu es. C'est pour ça qu'on n'est pas aimé de tout le monde. Non, non, mais c'est pour ça que tu peux énerver certaines catégories de gens, puis d'autres pas.
Ouais.
Fait qu'il y a des gens avec qui tu remarqueras, hein, Yannick, il y a des gens avec qui spontanément t'es bien. On dirait que tu les connais depuis toujours. Ensuite, d'autres, ça prend un petit peu de temps, mais tu finis par devenir plus. Ça devient plus agréable relationnellement. Puis il y a des gens avec qui il faudra toujours que tu fasses attention. C'est pas naturel. T'sais. Fait que selon qui tu es, t'es pas attiré par le même style de personne.
OK, parce que je vais t'avouer que moi, les gens qui réagissent tout de suite là, quand il arrive une situation, puis qui sont très caractériels, prenons exemple un politicien, t'sais, Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, il semble être extrêmement caractériel, et quand il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, ben, il réagit tout de suite.
Plus
Même
réactionnel.
si je ne voterai probablement pas PQ aux prochaines élections, pas le choix d'admettre que cette personne-là, je sais exactement comment elle va réagir dans telle situation, puis ce qu'elle dit là, elle le pense vraiment, contrairement à quelqu'un qui pourrait être un peu plus mystérieux, qui fait un peu plus acte de résilience quand il arrive des situations qui sont qui le confrontent. Ces gens-là, on dirait que tu sais pas tout de suite comment ils sont, comment ils perçoivent la situation. Ils sont un peu plus mystérieux, tu sais.
Ben, je te dirais que ce que toi tu apprécies pour lui, d'autres pour les mêmes raisons ne l'aimeront pas. Donc, pour la même raison que tu me décris, t'aimes mieux que ça sorte comme ça vient,
Oui.
au moins tu sais qui est le personnage. Pour d'autres personnes, ça va manquer de noblesse, ça va manquer de respect, ça va manquer de sérieux, de retenue, tu vois. Fait que tout vient de notre perception, hein. Toi, dans ta perception, quand tu regardes avec tes lunettes à toi, tu vois quelqu'un de qui t'apprécie ce comportement-là pour X raisons, pour d'autres, pas.
À l'extrême, on a, je compare pas les deux, mais à l'extrême, on a un Donald Trump qui est très caractériel aussi, mais qui semble être extrêmement mesquin, qui semble jouer avec les communications. Lui, on entend ce qu'il pense, mais on ne sait pas s'il pense réellement. Tandis que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est très caractériel, mais tu sens qu'il y a, c'est vraiment, ça vient vraiment de l'intérieur, toute la douleur qu'il peut ressentir quand on lui dit que le Québec ne sera jamais souverain, exemple.
Ben, tu sais, il est spontané et impulsif, ça vient comme ça vient.
Ouais, voilà.
Mais t'as pas juste ça dans la vie, là. Là, on fera pas le tableau de Trump parce qu'on y passerait plusieurs heures. Mais chez lui, on ajoute la manipulation, tu
Voilà.
comprends? Fait que ça dépend des ingrédients que tu ajoutes, là. Ça dépend. Tu sais, t'es pas juste une chose, c'est ce que tu es en vertu de ce qui s'ajoute autour, tu comprends? Fait que, tu vois, le plus important, c'est de connaître qui je suis et quelles personnes me sont agréables, quelles personnes de qui je me sens plus inconfortable, pourquoi ça arrive, puis ça nous permet d'être plus en mesure d'avoir des relations positives autour de soi. Dans l'autre ordre d'idée, tu sais, on parlait de gens qui sont plus calmes et posés, des gens plus impulsifs, il y a des gens qui sont extrêmement perfectionnistes. Chaque petit détail, qui sont très organisés. Hein? Les perfectionnistes, c'est des gens dont la rigueur et le détail est extrêmement important. Donc, on va remarquer chez ces gens-là un côté qui est beaucoup plus méthodique. Et il y a des gens qui vont apprécier ce genre de personnalité-là. C'est discipliné, on sait où ça s'en va, etc. Alors que d'autres vont étouffer avec des personnes comme
Ouais,
ça.
mais
Ils vont
c'est-tu ces gens-là qui ont des tocs pour la plupart?
pas nécessairement. Non.
Non.
Non, non, pas nécessairement.
Hein?
Mais
Mettre les
ce que
canettes de conserve toujours du même bord dans le frigidaire, tout est droit, tout est classé, c'est par ordre de date de péremption.
Le niveau de perfectionnisme
Ah!
est élevé. Mais c'est ça,
Ce
c'est
monde-là
ça.
m'énerve.
Ils peuvent avoir des rituels qui ne sont pas nécessairement dus à l'anxiété, mais c'est très rigoureux. Et c'est des gens qui ont de la difficulté à sortir de leur zone de confort et à improviser, tu comprends? Donc, si on a décidé qu'on mangeait du poulet ce soir, même si toi tu dis fuck le poulet, on le mangera demain puis on ira avec la pizza,
Ça marche
non,
pas. OK.
ça marche pas, tu comprends? Mais pour d'autres personnes, c'est des gens extrêmement sécurisants. Tu sais, on ne sera pas trop surpris, on n'est pas dérouté, on sait à quoi s'en tenir. Fait que, c'est ça. C'est ça. C'est variable d'une personne à l'autre. Puis c'est sûr que moi, je pense qu'il n'y a pas de défaut dans la vie. Il y a des qualités qui tournent mal. Donc, être perfectionniste, mais évoluer comme perfectionniste, garder ton côté rigoureux, mais d'être capable de sortir de ta zone de confort, ça serait un bon combo, tu comprends?
Oui. La vie doit
Pas
être un cauchemar pour eux, parce qu'ici, ils sont perfectionnistes, là. Ce que les gens vont prendre 20 minutes à faire, dans leur cas, c'est constamment du 60 minutes, du 80 minutes, 90 minutes, là.
Imagine un très grand perfectionniste qui est avec quelqu'un qui est complètement débonnaire. La vie, c'est comme ça vient, on improvise. Donc,
Je,
on
tu viens
peut
de décrire mes relations de couple.
parler.
J'ai toujours été avec des gens qui étaient très structurés, qui savaient exactement ce qu'ils voulaient. Moi, ça a toujours été, on est quel jour aujourd'hui? Ben, ça sera ça. Mais pour les gens avec qui j'ai eu la chance de partager, avec qui j'ai eu la chance de partager ma vie, eux, c'était important de savoir où est-ce qu'on allait être dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. Moi, l'important, j'étais dans le ici maintenant, mais il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui fonctionne comme nous autres. T'sais. Il y en a qui ont besoin de structure, il y en a qui ont besoin de planifier, puis qui veulent pas être, comment on pourrait dire, dépendants de ton horaire à toi. T'sais. Eux, ils aiment bien avoir leur propre horaire aussi, là.
C'est extrêmement intéressant et pertinent ce que tu dis, puis il y a des auditeurs, auditrices qui vont se reconnaître là-dedans. C'est que tu es allé chercher à l'extérieur ce que tu n'as pas à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on est attiré par nos contraires, même s'ils finissent par nous taper ses nerfs des fois à la longue. Mais tu es allé chercher la rigueur, la structure, l'encadrement que tu as peut-être plus de difficultés à te donner. parce que de l'extérieur, on te l'apporte. Même chose pour ta partenaire, tes ex, ou on appelle-la comme tu voudras, les femmes de ta vie, ben, ils allaient chercher probablement la capacité de se donner la permission. C'était extrêmement séduisant de pouvoir sortir de sa zone de confort, de dire, oh, pis de la merde, pis, tu sais, fait que, il y a quelque chose qu'on va chercher de l'extérieur qu'on a de la misère à produire par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que les contraires s'attirent, par exemple. Tu comprends? Mais c'est d'arrimer nos différences. Il faut que nos différences soient mises au profit de l'autre et qu'ils finissent par nous taper ses nerfs. Et c'est là le défi, Yannick. C'est là le défi. Puis plus tu vas loin, 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 loin de toi, bien plus ça demande une grande capacité d'adaptation. Fait que, toi, ça nous permet. Regarde, j'ai juste dit quelques caractères, ça t'a permis d'aller fouiller dans ta vie et d'explorer plein de zones. Tu vois comment c'est intéressant. Ensuite, j'en prendrai deux pour être capable de les comparer. Introverti et extraverti. Donc, les gens introvertis, bien sûr, c'est des gens qui ont une vie intérieure qui est plus scellée. Hein, ils gardent à l'intérieur de la difficulté plus à nommer les choses. Alors que l'extroverti, lui, souvent, il est verbomoteur.
Un livre ouvert.
Un livre ouvert. Tu sais, fait que c'est t'es un ou l'autre, et tu as raison, en vieillissant, on devient un petit peu plus dans l'équilibre quand on utilise les événements de la vie. Donc, tu pouvais être très, très introverti quand tu étais petit, par exemple, mais si tu as été stimulé, si tu es sorti de ta zone de confort, tu t'es mis en danger, etc., ben on peut penser que ça l'a évolué. Donc, quand tu te compares quand tu étais petit, tu peux être toujours introverti, mais ta capacité d'être dans un moment, utiliser une force qui est être extroverti, c'est-à-dire que tu es capable de prendre la parole si tu veux la prendre, tu es capable de, en réunion d'équipe, tu es capable de lever la main puis de nommer une opinion, etc. C'est pas un comportement inné, c'est un comportement acquis. Donc, ça veut dire que. Puis, tu remarqueras que quand tu écoutes les acteurs, par exemple, il n'y a pas rare de gens qui vont dire, c'est quelqu'un de. Puis, tu sais, grâce à la radio, on a rencontré plein, hein. Et toujours surpris de voir qu'ils sont gênés raides, là. Non, mais il y en a que j'ai rencontrés, tu sais, qui sont sur scène, puis en personne, ils sont gênés. Timoré, tout ça. Puis ce qu'il dit, c'est quand je prends la peau d'un personnage, je suis capable d'exploiter et d'explorer un univers que dans ma vraie vie, c'est plus difficile. Fait que tu vois, ils ont réussi à développer ça dans un comportement qui est acquis à travers un travail que tu fais. Fait que, au fond, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut développer plein de choses en cours de route. Encore faut-il le vouloir. Mais on ne devient pas quelqu'un d'autre, on devient meilleur avec des choses qui ne sont pas innées, puis qui peuvent s'acquérir à tout moment de notre vie en travaillant. C'est sûr qu'on garde le fond de ce qu'on est, mais l'important, c'est d'avoir la vie que tu veux. Que tes traits de caractère ne t'empêchent pas d'avoir la vie que tu veux. Qu'ils soient au bénéfice de la vie que tu veux. Que tu puisses l'utiliser pour aller où tu veux, être sur ton X, avoir les relations saine. Puis pour moi, s'interroger sur qui je suis, ça fait partie d'un point de départ fort intéressant pour dire qu'est-ce que je peux utiliser et de quoi je dois me méfier et comment je peux faire évoluer tout ça. Parce que tu le disais, hein, je suis pas le même. En théorie, en vieillissant, on n'est pas les mêmes, mais on est la même personne, saveur améliorée.
Ben, il y en a certains qui diraient que parce qu'on vieillit, on faiblit, puis on devient plus résilient parce qu'on n'a plus à force de se battre. Mais moi, je pense qu'au niveau psychologique, il y a quelque chose qui se passe en nous, puis qu'on comprend bien des affaires, des choses sur lesquelles on doit cesser de s'en faire parce que, anyway, on n'est pas capable de contrôler ça. T'sais, s'il y a des gens qui sont terrorisés par la guerre dans le monde, vous pouvez continuer d'être terrorisé, mais le fait que vous soyez terrorisé, vous ayez peur, ça arrangera pas les choses. Fait que des fois, juste mettre l'actualité de côté. C'est possible de mettre l'actualité de côté puis se concentrer sur les belles choses de la vie. Quand ça va pas, Paul, j'ai toujours eu le même réflexe. Moi, sais-tu qu'est-ce que je fais? Je fais appel à la nostalgie. La nostalgie, ça me fait du bien. Ça, c'est un truc que je pourrais donner à plein de monde. Il y en a qui vont le faire avec la musique, qui vont écouter la musique de lorsqu'ils étaient adolescents ou la jeune vie d'adulte. Donc, c'est assez facile aujourd'hui avec les Spotify de ce monde de retrouver les chansons qu'on écoutait dans les belles décennies qu'on a connues. Moi, sais-tu ce que je fais? Je prends ma voiture ou je prends ma moto, surtout ma moto, et je vais dans les endroits où j'ai passé ma jeunesse.
J'aime ça.
Puis ça me rapporte, ça me ramène des souvenirs que j'avais enfouis, que, tu sais, auxquels je pense pas à chaque année, là. Puis là, je vais visiter les endroits. C'est la première balançoire à Beauport où j'ai donné mon premier bec sur la joue à une petite fille. Je devais avoir 5-6 ans, puis on jouait un jeu. Puis là, elle a dit, faut que tu me donnes un bec. Mais j'ai donné un bec 5-6 ans, puis ça m'a fait sourire quand j'ai vu cette... Là, la balançoire n'est plus là, mais je voyais l'emplacement, puis ça me rappelait ces souvenirs-là. La première école, l'école primaire où tu allais, aller voir à l'endroit où tu jouais aux billes, tu sais. Tu vas là, puis tu revois les images qui te reviennent en mémoire. Ça me fait tellement de bien, ça.
As-tu remarqué à quel moment tu sens le besoin de le faire?
Ah, quand ça va pas. Quand ça va pas, mettons,
j'ai une corrélation directe.
Ouais. Quand ça va pas, ça peut être j'ai un surplus de travail dans ma tête, puis je veux penser à d'autres choses un peu. Nostalgie, je m'en vais me promener en moto, puis je vais faire le tour de « Ah, ben tu sais, mon ami restait à cet endroit-là. Ah, ben ça fait un bout que j'ai pas été dans ce quartier-là. J'avais 2-3 chums qui habitaient là. Comment ça a changé? » Puis ça me fait du bien à moi.
Écoute, encore une fois, on pourrait pas croire, mais t'es rempli de sagesse. Non, il y a de l'espoir. Tu sais, quand tu vas pas bien, Yannick, souvent, c'est face à l'inconnu. Tu es face à une variable. Tu sais, quand ça va pas bien, c'est face à quelque chose qui est de l'inconnu. Quand tu vas pas bien, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie et tu dois soit prendre une décision, soit... Je veux dire, il y a une variable d'inconnu. Mm-hmm. Okay? Donc, d'utiliser ce que tu connais, c'est extrêmement sécurisant.
Je trouve que c'est un ancrage, en fait.
C'est tes racines et c'est... On appelle ça un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est... Puis c'est quelque chose qui est tout à fait vrai pour plusieurs personnes. Donc, de retrouver ce que tu as connu te permet d'avoir un retour avec la sécurité. Et c'est sûr que tu vas faire un pèlerinage en fonction de ce qui a été tes racines qui ont fait du bien, bien sûr. Mais tu vois, tu te rappelles, ça te sécurise, tu retrouves un refuge, hein? On appelle ça en psychologie des pensées-refuges. Et pour produire ces pensées-refuges-là, tu te retrouves, tu retrouves le sentiment que tu avais à ce moment-là.
Ouais.
Parce qu'on sait que les pensées produisent les émotions. Donc, si tu te retrouves dans un endroit où les pensées sont bienveillantes, ben ça te ramène dans revoir notre maison d'enfance. Combien de personnes, tout dépendant de ce que tu
fais
à l'enfance, comment c'est fort. Écoute, moi, je te le dis, là, plusieurs fois par année, j'ai ce besoin-là. Puis plein de monde autour de moi, ce pèlerinage-là, et de raconter toujours la même chose. Tu sais, ça fait plusieurs années que je suis mariée, je joue avec mon mari, il fait son pèlerinage. Il va encore me dire où il a eu sa première gomme ballon. Mais ça fait 500 fois qu'il me le dit. Mais il a encore besoin
okay.
de
Mais on fait, je ne suis pas le seul qui fait ça. On est une coupe à le faire. Là. Puis...
Mais je serais surpris si on demandait aux gens de nous envoyer des coucous. Tu serais surpris de voir qu'on ne s'en rend même pas compte des fois. Et, bon, exemple, les gens qui vont au cimetière ou qui vont au columbarium.
C'est de l'ancrage. Ouais.
C'est de l'ancrage, tu comprends? C'est une façon, puis des fois, c'est l'inconscient qui parle plus fort que toi. Il te demande de te faire du bien. Tu sais, moi, les cimetières, c'est une place vide pour moi, OK? Pour moi. Mais quand ma fille a eu 5 ans, mon père était mort depuis que j'étais très jeune, j'ai eu envie un samedi soir de l'amener au cimetière pour y présenter. J'avais envie de présenter ma fille à mon père. OK? Tu vas me dire, Paul, c'est complètement inconscient, c'était pas rationnel. T'as raison, j'y crois même pas. Mais ce jour-là, j'y croyais. J'avais besoin de connecter avec mon père et c'était l'endroit le plus fort que j'ai trouvé. Donc, se connecter à ce qu'on a vécu, ça peut être dans beaucoup de cas une façon de se sécuriser, de se faire du bien. On appelle ça notre répertoire de vie. Hein? C'est ce qui fait aussi que dans la vie, tu accumules des connaissances et des compétences, mais tu accumules aussi la possibilité de te faire immensément de bien parce que ton répertoire grandit avec les années, là, tu comprends.
C'est ça. Mais moi, je fais pas ça nécessairement quand j'ai le goût de me sacrer en bas d'un pont. Là. Je fais ça juste pour me changer d'idée. Tu sais, ça peut être qu'il y a un surplus de boulot, Puis là, ben, tu as besoin de 20, 30, 40 minutes pour passer à d'autres choses. Ça peut être... Il y a beaucoup de dossiers à la maison avec la conjointe, avec les enfants, puis on n'a pas nécessairement toutes les réponses, puis on se dit, si je reste ici, tu vas devenir fou. Fait que je vais aller me promener. Tu t'en vas te changer les idées, tu vas te rappeler des souvenirs, t'amènes un peu de nostalgie, t'écoutes ta musique, t'es en voiture ou en moto, puis tu reviens à la maison, puis on dirait que t'as les idées plus claires. T'sais, on dirait que t'es comme un peu plus heureux d'avoir tous ces dossiers-là à régler une fois rendu à la maison.
Exactement, les pensées refuges. Donc, tu vas te réfugier pour prendre des forces, pour faire le vide ou faire le plein. Des fois, c'est un peu les deux. Mais pour prendre des vacances de ce qui est dans ta tête.
C'est ça, exact.
Tu comprends? Tu prends. C'est comme un endroit qui n'appartient qu'à toi au moment où tu le vis et qui te permet d'être nulle part ailleurs que connecté sur prendre des vacances de ton souci, de ton trop-plein, du vide ou peu importe, là, tu comprends?
Et on le fait avec nos yeux, Paul. Quand on est trop longtemps devant l'ordinateur, là, on lâche l'ordinateur puis on regarde par la fenêtre au loin, ça nous fait du bien. Mais faisons-le avec notre cerveau aussi. Là.
Oui, puis c'est pour ça que ce que je vais proposer souvent aux gens, c'est un endroit où tu as des objets, des éléments qui te permettent. Puis, tu sais, tu vois, là, tu vois pas tout mon bureau. Ça, c'est mon bureau où on est actuellement. Si je te faisais faire le tour, il y a plein de trucs qui me ramènent. Donc, quand, tu sais, et je veux dire, je viens de faire un pacte de non-suicide. Tu sais, des fois, c'est émotivement, tu comprends, j'ai besoin d'un 15 minutes, puis j'ai pas plus que 15 minutes pour un autre client, par exemple. Puis, je vois pas bien parce que tu peux pas accueillir la détresse de quelqu'un sans toi-même être influencé par cette émotion-là quand tu étais connecté à l'autre, ben j'ai plein de trucs autour, je te dirais, là, si tu viendrais ici. Là, et tu as raison, je me collecte à une image, je me collecte à un objet, et là, ça devient une pensée refuge.
Exact.
Puis faites-le, vous allez être surpris de voir que ce qui vous entoure vous permet de vous connecter sur autre chose.
Paul Lévesque, il te reste encore un petit peu de temps, j'aimerais ça te garder encore un peu avec nous. Je vous rappelle que ce soir, on est avec Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Boulevard, 102.1. Que tu prennes tes vacances ici ou ailleurs, peu importe quand tu pars et où tu vas, traîne Boulevard 102.1 dans tes valises. L'application Boulevard 102.1.
À l'Oasis du port de Québec, chaque journée a son ambiance. Yoga aquatique, quiz, spectacle d'humour, danse et musique vous attendent tout l'été au bord de l'eau. portdequebec.ca.
L'événement estival à ne pas manquer est en cours. Jusqu'au 8 juillet, économisez jusqu'à 50% sur un vaste assortiment de styles estivaux de vos marques préférées. Du confort quotidien au style prêt pour la fin de semaine conçu pour tous les aspects de l'été. En cours chez l'équipeur et sur l'équipeur.com.
Vieux frigo, congélo, climatiseur, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle, recycle vos vieux appareils réfrigérants.
Télio Assurance, c'est aussi des assurances spécifiques pour les entreprises. Avec notre département PME et commercial qui travaille pour développer vos solutions d'affaires, qui couvre plusieurs secteurs d'activité et types d'entreprises, nous avons les meilleures solutions pour protéger vos biens et vos actifs. Nous proposons aussi une gamme de programmes spécialisés tels que cyber-risque, camionnage et programmes d'hébergement touristique et de tout genre pour la location court terme. Chez Telio, on se mêle de vos affaires. Visitez telioassure.com.
Ah, les années 90. Le son que ça faisait quand tu soufflais dans une cassette de Super Nintendo, là, bien installée dans le vieux divan du sous-sol de chez tes parents, avec bien sûr une canette de soda à la main au goût mythique de crème soda. Aujourd'hui, ce classique revient en version alcoolisée. Ben oui, découvrez Retrofit Crème Soda inspiré des saveurs de ton enfance. Disponible en bouteille et en canette. Petit prix, gros feeling nostalgique, disponible dans une SAQ près de chez vous. Retrofit, parce que la nostalgie n'a jamais eu si bon goût. Approuvé, William.
Déjà plus de 40 000 visiteurs ont vécu la magie d'Aura à l'église Saint-Roch. Cet été, plongez dans une expérience immersive spectaculaire alliant lumière et musique. De nouvelles représentations ont été ajoutées. Réservez vos billets dès maintenant au auraeglisesaintroch.com.
Chez Dino, profitez de 15% de rabais sur les traitements K9 Prevencia 360 contre les puces pour chiens et chats. Protégez vos animaux. Les puces se multiplient rapidement et causent démangeaisons et infections. Rendez-vous en succursale ou sur dino.ca pour découvrir nos spécialités du mois.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, est avec nous ce soir. Paul, pour les gens qui désirent te rencontrer ou assister à tes conférences, on s'informe comment sur Paul Lévesque, la spécialiste du comportement humain?
Ben, c'est Paul Lévesque, pas d'accent, tu vas me trouver. Tape Paul Lévesque, ça va apparaître. Tu vas me reconnaître vite, j'ai les cheveux rouges. Fait que tu peux pas me manquer, c'est sûr.
Sinon, sur Internet, paullevesque.net.
Je suis un peu partout. Si vous ne me trouvez pas, faites coucou à Yannick, lui... C'est quand même à retrouver, c'est sûr.
Exactement, exactement. On était dans les traits de caractère, il nous en restait deux à faire pour ce soir.
Oui. Il y a le leader.
Le leader.
Leader, ça fait partie d'un trait de caractère. Donc, il y a des gens qui vont être des conducteurs de train naturels, puis d'autres personnes qui aiment mieux s'asseoir dans le train puis se laisser conduire. OK? Donc, les leaders, c'est, bien sûr, il y a les leaders positifs et les leaders négatifs, là. C'est comme si tu marchais sur un parapet. Puis des fois, tu as été un leader négatif puis tu deviens un leader positif.
Ouais.
Je ne sais pas de quel bord ça va. Mais c'est des gens qui ont une forte personnalité, qui vont souvent briser les murs pour que les autres puissent y traverser. C'est des gens qui n'aiment pas être menés. C'est des gens qui doivent être ceux qui mènent. Pas nécessairement des germains et des germaines. Ça pourrait. Mais c'est des gens qui... ont besoin de toucher la matière par eux-mêmes. Tu sais, c'est souvent des organisateurs, des gens. Tu sais, ça prend tout ce monde-là dans notre vie, là. Mais il y a des gens qui vont aimer être en tête, puis il y a des gens qui vont aimer suivre les gens qui sont en tête. Donc, le leadership, les gens qui... Puis il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. C'est pas péjoratif, au contraire. Ça prend tout un monde pour faire un monde, mais on sait qu'il y a des gens qui veulent être devant la parade.
Okay. Est-ce que c'est des gens qui ont de la difficulté à avoir un deuxième coq dans la basse-cour?
C'est des gens qui ont le sens de la bataille, hein, parce que les leaders, ils aiment être le conducteur. Donc, s'il y a 3-4 conducteurs, ça peut devenir effectivement un défi. C'est des gens qui vont être combatifs. C'est des gens qui vont... Oui, qui vont avoir le sens du dépassement, qui vont... Oui, s'il y a 2-3 coqs dans la basse-cour, ça se peut que le leader se dispute pour okay. être
Parce que
celui qui va...
Dans ma vie, que ce soit professionnel ou en amitié, j'ai souvent vu des leaders naturels, hommes comme femmes, se présenter, mais en ne s'imposant pas. Je te dirais que dans le milieu du travail, j'en ai rencontré peut-être un ou deux là, qui n'avaient pas ça instinctivement, là, l'effet de leader naturel. C'est des gens qui tentaient de s'imposer pour peut-être grimper dans la hiérarchie, mais qui, pardonne-moi l'expression, là, c'était le principe de Peter. Là, il l'avait pas pantoute. Moi, j'aime mieux les leaders naturels, des gens qui ne s'imposent pas, mais de par leur présence, de par leur façon d'être, ils s'imposent en entreprise, puis les gens se rallient autour de ces gens-là.
Tu as raison. On a une image du leader que c'est nécessairement quelqu'un qui est brusque, etc. Regarde, je vais te donner un exemple. Mère Teresa, là, pour moi, c'est un leader. Bon, ceux qui ne connaissent pas Mère Teresa, elle avait un petit linge à vaisselle sur la tête, puis elle s'occupait des lépreux.
Oui.
C'était une religieuse incroyable, que j'ai pas connue personnellement, mais c'est parce qu'on pense qu'un leader, c'est nécessairement quelqu'un qui est toujours dans le combat, etc. Mais des leaders, c'est ceux qui vont être dans le lead, mais ça peut être le lead doux. Hein? Mère Teresa était un leader, c'est-à-dire elle a influencé plein de monde, elle a ouvert des portes, elle a été une conductrice de train dans beaucoup d'éléments.
Oui.
Mais effectivement, tu peux être un leader qui est tout à fait respectueux des autres. Tu comprends? Ça dépend toujours des autres traits de caractère que tu as qui vont venir. Tu n'es pas juste une patente, tu comprends? Ça dépend toujours comment tu vas utiliser ton caractère.
OK. Et le dernier?
Et le dernier sur lequel... Mais il y en a plein, mais j'ai sorti les plus... ceux qui viennent façonner beaucoup la personnalité. L'empathie.
Ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Ces gens-là, c'est lourd. Ils accumulent tout le temps la douleur des autres.
Et là, c'est drôle parce que j'ai écrit sur ma feuille « Absorbe le stress des autres humains ». Mais non, mais ils sont extraordinaires. Je veux dire, si tu as quelqu'un d'empathique dans ta vie, ben tu l'es, Yannick. Là. Puis moi, je le suis aussi. Là. Tu comprends? Empathique, ça veut dire être capable de se mettre à la place de l'autre. Et ce que je remarque de toi, c'est que tu l'es de plus en plus.
Ah, peut-être, mais des fois, j'ai même pensé à les consulter pour ça. Des fois, je vis des deuils par procuration, des deuils qui ne m'appartiennent pas, mais que je les prends sous dans mes émotions, alors que ça n'a pas d'affaire là. Tu as
raison. L'empathique n'est pas désagréable pour l'autre, il est menaçant pour lui-même.
Pour lui-même, ouais.
C'est-à-dire que si tu as quelqu'un d'empathique dans ta vie, c'est merveilleux, il est capable de se mettre à ta place, d'être... Bon, c'est l'ourson en peluche, en fait. Mais le danger, c'est pour soi, effectivement, c'est que tu te mets... Puis, tu vas remarquer que les gens empathiques, pour beaucoup, pas tous, ont une tendance à aller chercher des carrières qui les mettent en contact avec des humains. Parce que cette empathie-là prend quelqu'un qui est dans le mode de la santé, prend un intervenant, ils ont une tendance à être empathique, c'est se mettre à la place de l'autre. Et ce que tu dois apprendre, c'est continuer à être empathique, mais apprendre à te protéger.
Exact.
C'est là que joue l'enjeu. Mais l'empathique, on en veut tous dans notre vie parce que c'est quelqu'un qui est capable de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, mais ils sont à risque d'éponge.
C'est des bons clients à la SAQ aussi, les empathiques.
Tu ris, hein, mais c'est parce que plus tu sens de la douleur, plus tu es à risque de prendre une médication
ben oui.
que tu veux. Fait que si tu ressens trop de patente, à un moment donné, tu as besoin de te soulager. Ouais. Ça se peut.
C'est ça. Mettons-nous longtemps que ça ne nous nuit pas dans notre quotidien ou que ça ne nuit pas aux autres. C'est correct, mais à consommer avec modération. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, paullévesque.net, Paul Lévesque sur les réseaux sociaux. Tu es éducatrice spécialisée de formation, donc tu fais des conférences aussi. D'ailleurs, les conférences, es-tu plus tranquille cet été ou tu recommences-tu à l'automne?
Écoute, c'est supposé être une période. Tu vois, j'ai fait 21 jours consécutifs, j'en avais même la fin de semaine. C'était beaucoup des événements reconnaissance.
Oui.
Hein? De l'année. Fait que je te dirais que là, on va être dans une période de préparation pour un retour grandiose. Puis les gens ont recommencé parce que durant la pandémie, les gens avaient pris d'autres comportements, mais là, je vois que les gens de plus en plus réservent d'avance. Fait que, tu sais, les gens sont en train de réserver même 2027.
Oh, wow.
Là, j'ai des demandes pour 2027, tu vois. Fait que n'hésitez pas pour toutes sortes d'événements. Moi, je suis partante. Puis, tu sais, moi, j'aime ça rentrer par toutes les portes pour faire du bien. Donc, quand j'écris un livre, quand je suis à la radio, quand je suis en conférence, quand je suis en individuel, l'idée, c'est de rentrer par toutes les petites fenêtres que les gens me donnent pour leur faire du bien. C'est toujours l'objectif.
Paul Lévesque, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres ce soir.
Ce fut un bonheur. Et puis, célébrez qui vous êtes avec le plus d'empathie possible pour vous-même. Le but, c'est apprendre à t'aimer pour être capable d'aimer les autres.
On se laisse là-dessus, les amis. Passez une belle soirée. On se reparle demain. Bye.
Marceau, le soir.
Cet été, donnez-vous rendez-vous à la cale du Port de Québec. Terrasse au bord de l'eau, match de la Coupe du Monde et événements incontournables vous attendent. Portdequebec.ca.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Coors Light est à 69$, puis la caisse de 24 canettes de Heineken est à 33,2$. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 1er juillet en magasin en ligne. Détails au superc.ca.
Le 1er juillet, venez célébrer la fête du Canada sur les plaines d'Abraham. Dès midi, plus de 50 activités et K-pop Demon Hunters. À 20h, spectacle d'Annie Villeneuve au kiosque Edwin Bélanger. Le 1er juillet, c'est gratuit, festif et pour toute la famille. Une participation du gouvernement du Canada et production Logico.
Max, t'as-tu appelé Desjardins?
Non, c'est ça, c'est que t'as pas besoin d'appeler grâce à l'application Service mobile Desjardins. Quand ta carte de débit ou de crédit manque à l'appel, t'es capable d'en recommander une rapidement.
On dirait que tu dis beaucoup « app ».
À part de ça, mettons que ton papa te rappelle de payer ta part de l'apéro.
Franchement.
Non, mais fais-le un virement. Avec l'appli mobile, tu peux faire la plupart de tes opérations courantes. Oh, excuse-moi. App.
Ben non.
App.
Vraiment.
Happy Chew.
App tes souhaits.
Le caucus. Du lundi au jeudi midi, ne manquez pas les explications simples de dossiers parfois complexes. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Du lundi au jeudi midi, dans On en jase. Boulevard. 102.1.
Au-delà des gins Kepler, découvrez la signature Appalaches Distillery. Lily Queen, rhum épicé, Retrofit, liqueur aux saveurs de notre enfance. Disponible à la SAQ en format bouteille, canette et sans alcool. Fier partenaire majeur du FEQ. Appalaches Distillery, les saveurs d'ici.
Vieux frigo, congélo, climatiseur, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle, recycle vos vieux appareils réfrigérés.
Devoir partir vite, vite du boulot pour le concert de flûte de Léo.